ce 27 mars à Rencontre spirituelle, je compte consacrer toute l'émission, à mon avis, à un des grands saints du 20e siècle, mais ça c'est un avis uniquement personnel, il est partagé par des milliers de gens dans l'Église. C'est un carme, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, auteur de cet ouvrage énorme, un peu difficile, mais très répandu, qui est publié un peu comme une Bible et qui s'appelle « Je veux voir Dieu ». C'est un ouvrage qu'il a publié à l'intention des gens qui ont voulu suivre sa pensée, sa doctrine, lui qui est un des plus grands carmes, c'est l'équivalent des carmélites, un des plus grands carmes de tous les temps, et en particulier certainement du 20e siècle. C'est un homme exceptionnel, d'une très grande richesse, qui a écrit aussi d'autres articles, des choses que l'on voit un peu partout dans des revues du Carmel. C'était un Aveyronnais d'origine dans la campagne française, de milieu modeste. De son vrai nom, Henri Grialou. Curieux nom de famille, mais charmant, sympathique, hein, Grialou. G-R-I-A-L-O-U. Il est né le 2 décembre 1894 et son père, Auguste Grialou, travaillait alors à la mine du village, donc c'est le fils d'un mineur. Des origines très simples. C'est merveilleux dans l'Église de penser que on a eu des papes qui étaient si pauvres dans leur enfance, qui portaient dans leurs mains leurs chaussures pour ne pas les user en se rendant à l'école. Ben oui, je parle de Saint Pie X, qui était pape au début du siècle. Jean XXIII, que vous avez presque tous connu. C'était des gens de milieu extrêmement pauvres. Et en voilà un autre, mais qui n'est pas pape, mais un des plus grands mystiques du 20e siècle. Et il est mort en août, c'est-à-dire son père est mort en août 1904, après simplement quelques jours de maladie, il laissait 5 enfants à élever à sa femme. Henri avait 9 ans. Et la famille était profondément chrétienne. Il y avait là de beaucoup de simplicité, de bon sens. Son frère aîné de 5 ans, plus âgé là, que les autres enfants d'ailleurs, est devenu le soutien de sa mère, heureusement. Hein? Et les 4 plus jeunes l'ont bien respecté, il a remplacé leur père. Henri était le 3e enfant, puis il est témoin de la souffrance de sa mère, il s'y attache beaucoup. Il admire sa vaillance, sa tendresse aussi. Et puis, lui-même éprouve beaucoup, beaucoup de tendresse pour ses sœurs et sa mère. Et cette tendresse va nourrir en lui une bonté et une délicatesse de cœur qui en fera un saint. Ça s'alliait d'ailleurs à sa rudesse, à sa vigueur exigeante. Et très tôt, presque naturellement, Henri Grialou, le fameux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus de son nom de Carme, est attiré par le sacerdoce, alors après sa première communion, son curé le pousse à entrer au petit séminaire. Il écrit à un camarade en 1910, n'oubliez pas, il est né en 1910, que les autres enfants d'ailleurs, est devenu le soutien de sa mère, heureusement. Hein? Et les 4 plus jeunes l'ont bien respecté, il a remplacé leur père. Henri était le 3e enfant, puis il est témoin de la souffrance de sa mère, il s'y attache beaucoup. Il admire sa vaillance, sa tendresse aussi. Et puis, lui-même éprouve beaucoup, beaucoup de tendresse pour ses sœurs et sa mère. Et cette tendresse va nourrir en lui une bonté et une délicatesse de cœur qui en fera un saint. Ça s'alliait d'ailleurs à sa rudesse, à sa vigueur exigeante. Et très tôt, presque naturellement, Henri Grialou, le fameux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus de son nom de Carme, est attiré par le sacerdoce, alors après sa première communion, son curé le pousse à entrer au petit séminaire. Il écrit à un camarade en 1910, n'oubliez pas, il est né en 1994 à la fin de l'année, il a donc une 15aine d'années, Au mois de juin, est venu un père du Saint-Esprit. Je sais, c'est des missionnaires très connus, les pères du Saint-Esprit. Monsieur le curé, dit-il dans la lettre, l'ayant averti, il est venu me demander si je voulais venir avec lui, et j'hésitais, mais enfin je partis seul, n'ayant pas 11 ans, au mois de septembre, pour l'Italie. Imaginez, c'est incroyable, hein? C'est comme ça, 10 ans! Sa mère est affectée, évidemment, par ce départ, et tandis qu'elle prépare son trousseau, il raconte qu'il l'encourageait, il encourageait sa mère, parce qu'il va être obligé d'encourager sa mère souvent. Elle est très attachée à lui. Hein? Alors il part seul pour ce long voyage, et pendant 3 ans, il ne revient pas chez lui. Ça doit être extrêmement dur quand on y pense. 3 ans, il est en Italie. Il écrit d'ailleurs dans une lettre, « Je compris que la congrégation des Pères du Saint-Esprit n'irait pas bien pour moi. Et je leur ai envoyé une lettre pour dire que je ne revenais pas. » Alors il veut entrer au séminaire, tout simplement, devenir prêtre séculier. Or sa mère a pris ses dispositions pour l'envoyer faire une espèce d'apprentissage d'ajusteur à la suite de son frère aîné. Et Henri est obligé de se résigner pour ne pas trop faire de peine encore à sa mère. Alors il va obéir, puis il confie à quelqu'un que lorsqu'il sera grand et qu'il en aura les moyens, il sera prêtre. Et alors sa mère se rend à l'évidence, finalement. Elle le laisse entrer au petit séminaire. Le petit séminaire, je le dis pour les plus jeunes qui pourraient m'écouter ou d'autres qui ignorent ce que ça veut dire, un séminaire, un grand séminaire, c'est l'endroit où on en, disons, à 19, 20, 25 ans ou plus tard, pour faire des études proprement de philosophie, surtout de théologie. La théologie, l'étude des sciences ecclésiastiques et religieuses pour devenir prêtre. Hein? Et le petit séminaire, ben là, on entre à 11, 12, 13 ans, c'est tout comme un collège. Mais on appelle ça un séminaire parce qu'une grande partie des jeunes garçons qui entraient là songeaient plus ou moins à devenir prêtre ou religieux. Alors donc, elle le laisse entrer au petit séminaire. Puis c'est dur pour elle parce qu'elle a peu d'argent, il faut payer la pension. Puis finalement, ben, il entre au grand séminaire de Rodez, le 2 octobre 1911. C'est-à-dire qu'il entre au séminaire de Rodez, le 2 octobre 1911. Je m'excuse, plusieurs fois, il va parler dès son jeune âge de se donner complètement. Il écrit d'ailleurs, c'est surtout pendant la retraite que l'on aperçoit le pour et le contre du sacerdoce. Hein? Il est tout jeune quand il écrit ça. Si j'ose m'exprimer ainsi, le pour et le contre du sacerdoce, on pèse toutes les raisons, écrit-il, mûrement sans doute, mais à notre âge, nous ne sommes pas habitués à calculer et à nous absorber dans des combinaisons. En effet, il ajoute que quand on est jeune, nous nous élançons l'amour de Dieu au cœur, l'espoir en l'avenir dans la tête, dans un champ clos, où, nous semble-t-il, nous serons heureux d'épuiser peu à peu nos forces physiques et intellectuelles et de tomber enfin dans l'arène, comme l'arène où il y a des combats de taureaux, là, l'arène, en bon capitaine de l'armée du Christ. C'est le langage d'un adolescent qui veut devenir un soldat de Jésus-Christ. Mais la guerre de 1914, il y a 19 ans, là, ça interrompt sa formation. Alors il part comme volontaire pour le front, à cette fameuse grande guerre, comme on l'a appelée. À la place d'un père de famille, il part comme ça. Notre grade de caporal, il va revenir lieutenant. Il sera même décoré de la Croix de guerre puis de la Légion d'honneur. On dit que c'est pour son courage et sa hardiesse. En 1921, au séminaire de Rodez, il songe à entrer dans un monastère de l'ordre des Carmes déchaussés, comme celui qu'on a sur la rue Hamel maintenant, à Montréal, depuis quelques années à peine, pas tellement loin du métro Henri Bourassa, comme je vous l'ai souvent signalé. Faut aller là, hein? C'est un des rares endroits à Montréal où on rencontre des moines, des gens qui vivent en communauté, un peu comme des carmélites, mais eux peuvent sortir, hein? C'est moins cloîtré que des carmélites. Alors, il lui faut des certitudes pour confirmer cet appel qu'il entend au fond de son cœur, hein? Alors, il va les attendre dans le silence et la souffrance. Ce ne sera pas facile parce que son directeur spirituel s'y oppose. D'abord, son directeur spirituel ne croit pas du tout à sa vocation de carme. Pourquoi? Parce que c'est un garçon brillant. Est-ce qu'il faut être un peu moins brillant pour devenir carme, c'est pas ça du tout, c'est que son directeur était un prêtre séculier, puis il veut pas perdre pour le clergé séculier un candidat aussi merveilleux. D'autre part, il n'a pas encore dévoilé son secret à sa famille. Hein? Parce que sa mère tient à ce qu'il devienne particulier parce qu'elle, elle compte se réfugier dans son presbytère et de devenir sa ménagère. Alors, il écrit à sa sœur, « Le bon Dieu nous parle à mots couverts, à voix basse. Il nous montre ce que nous pourrions faire si nous voulions lui faire plaisir. » C'est donc vrai, ça. Hein? Puis il ajoute à sa sœur, toujours sa sœur Berthe, « Ordinairement, le bon Dieu nous manifeste sa volonté. » Et très clairement, par ses ministres. Pour ça qu'il se fie à son directeur de conscience. Il leur donne des lumières spéciales pour cela. Il ajoute que son directeur lui dit, « Vous êtes fou. Je ne veux plus en entendre parler. » Alors le pauvre Henri Grialou, séminariste, avait pris la résolution de se taire. Mais dans l'angoisse de son cœur, il avait demandé à Dieu de lui parler par la bouche même de ce directeur, à Pâques, si telle était sa volonté. Alors autrement, il n'y penserait plus. Il était prêt à s'abandonner complètement à la volonté de Dieu par son directeur spirituel. C'est pas facile à faire, ça. Hein? Alors le vendredi saint, il rencontre son directeur spirituel, qui s'appelait M. Belmont, et qui lui dit comme ça, le sourire aux lèvres, « Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me parlez plus de cette histoire de Carmel, d'entrée chez les Carmes? » Alors l'abbé Grialou était si ému d'entendre cette parole-là et de voir ce sourire qu'il a dû se retirer dans sa cellule, dans sa chambre. Alors, il allait évidemment se heurter après ça au veto de son évêque qui ne voulait pas perdre un candidat pareil. Et surtout la réaction de sa mère, hein, qui comptait toujours, comme je vous ai dit, devenir sa ménagère dans son presbytère. Et l'abbé Grialou, finalement, est ordonné prêtre le 4 février 1922. Il écrit « Je suis prêtre, prêtre pour l'éternité hein? ». Il est tout jeune, 1922. « Cette parole suffit à ma méditation. Je la répète aujourd'hui sans me lasser, pouvant à peine y croire. » Et on voit son amour pour Jésus-Christ déjà. C'est rare l'amour de Jésus-Christ si jeune. Souvent dans la vie chrétienne, c'est avec le temps qu'on apprend à connaître Jésus-Christ. C'est souvent à l'âge de 30, 40, et même 45 ans. Et lui, dans la vingtaine déjà, hein, il écrit, « Vous m'avez pris et élevé jusqu'à vous. Vous m'avez identifié à vous-même en me donnant les pouvoirs de votre sacerdoce. Demain, je prononcerai la formule sacramentelle et à ma voix vous viendrez. Vous, oui, je vous tiendrai dans mes mains et je vous donnerai. » Bon, ça me rappelle mon petit-fils Pascal, je me promenais dans la rue avec un musulman, puis il disait, « Oui, oui, je veux devenir prêtre et je vais donner Jésus-Christ. » Puis il sautait comme un gamin dans la rue. Je sais pas d'où ça lui vient, ces idées-là. C'est curieux, hein? On saisit aussi le désir d'identification de ce jeune prêtre. « Vous voulez que je sois une hostie, » écrit-il à Jésus. « Je m'offre à vous pour tout ce que vous voudrez, pour la paix, pour la joie, comme pour l'obscurité et la souffrance. » C'est beau, hein? Alors, son entrée chez les Carmes, bien, ça se fait en février 22. Hein? Je partirai d'ici pour le noviciat des Carmes à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est tout près du château de Fontainebleau, c'est au bout du parc. Si jamais vous allez visiter le château de Fontainebleau, promenez-vous dans le parc, allez jusqu'au bout, là, et vous verrez qu'il y a à Avon, un tout petit village, Avon, un magnifique couvent de Carmes, extrêmement important. J'y ai séjourné déjà pendant une semaine seul, mais complètement seul à l'hôtellerie, dans une retraite seule, dans le silence, 7 jours. J'avoue qu'au bout de 7 jours, j'avais hâte de parler. C'est pas facile, silence, 7 jours total. Hein? Manger seul, être seul, assister à la messe, les offices seuls, être totalement seul. Quoi qu'il y avait eu une fête importante, et on m'avait invité à l'intérieur du couvent pour manger avec le prieur du couvent et quelques moines, j'ai passé une belle récréation avec un vieux, vieux carme merveilleux. Alors, en semaine 15 février, donc, alors qu'il a définitivement quitté les siens sans le leur dire, il adresse à sa mère une émouvante lettre Voici un extrait. Il dit à sa mère, « Crois bien, ma bonne maman, que je comprends ton chagrin et qu'actuellement je pleure avec toi. Mais il faut accomplir la volonté de Dieu. En me consacrant, vous savez, elle avait consacré son enfant tout jeune, comme font beaucoup de mères, même encore aujourd'hui. J'ai déjà assisté à ça après un baptême. J'avais un filleul, d'ailleurs, et je me souviens que on avait porté l'enfant devant son sacrement, puis on a consacré mon filleul à Dieu. Mon frère Guy avait fait ça avec sa fille Emmanuelle à l'église Saint-Viateur à Outremont. Il avait porté sa fille des fonts baptismaux jusqu'à la Sainte Table et l'avait offerte à Dieu. Il était très croyant à cette époque, malheureusement, ce n'est plus la même chose. Vous priez. Alors, il dit à sa mère, en me consacrant, tu m'as donné à lui pour tout ce qu'il voulait. Et il m'appelle d'une façon tout à fait impérieuse à la vie religieuse. Alors, il lui dit d'en prendre son parti. Henri Grialou, donc, entre au Carmel d'Avon, près de Fontainebleau, le 24 février 1922, sans même être allé passer quelques jours de retraite dans un couvent de l'ordre, pour voir ce qu'il en était. Il prend l'habit le 10 mars suivant. Et, en somme, deux semaines plus tard. Et c'est là, en effet, que Dieu l'attend, car ce jeune homme, tout apprécié surtout pour son intelligence, pour ses qualités de chef, ses activités, porte en lui le goût du silence puis de la prière. Dans les années 1911-1913, au Grand Séminaire, il avait découvert l'autobiographie de Thérèse de Lisieux. Je vous conseille de lire ça, ceux qui aiment une lecture spirituelle, peut-être un petit peu en apparence à l'eau de rose, mais ce n'est pas l'eau de rose, c'est d'une fermeté, c'est d'une beauté. Il s'en était pénétré profondément de cette autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je trouve sa vie écrite par elle-même admirable. Aucun livre n'a jamais fait tant d'impression sur moi que celui-là. Mais je prends l'exemple de Daniel Rufessen que j'avais interviewé à Nazareth, un juif. Mais Daniel Rufessen, en Pologne, avait sauvé 300 juifs et un officier nazi est venu vers lui, qui était catholique, lui a dit, « Monsieur, nous savons tous, nous vous suivons de près, nous savons que vous êtes juif, vous avez sauvé des juifs, nous devons vous arrêter dans quelques heures. Alors si vous voulez me suivre, vous n'en parlez à personne, suivez-moi de loin, je m'arrêterai devant le porche d'une maison et vous tirerez la sonnette, on s'occupera de vous. » Et c'était devant un Carmel, et le pauvre Daniel Rufessen est devenu carmélite. Oui, oui, on l'a rasé de près, on l'a revêtu comme une carmélite, il est resté là pendant des mois et des mois et des mois, apprenant à célébrer l'office pour que les officiers nazis qui pouvaient envahir le couvent ne le découvrent pas. Puis il a lu justement cette biographie de Thérèse de Lisieux, il s'est converti, il est devenu carme. Et c'est comme ça que je l'ai interviewé à Nazareth. Je l'ai revu d'ailleurs au Mont Carmel quelques années plus tard. Daniel Rufessen, un juif carme. Alors devenu frère Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Henri Grialou fait profession en 23. Et puis il continue à vivre à Avon, le noviciat est une période de dénuement puis de solitude douloureuse. C'est très difficile pour lui de persévérer dans un couvent comme ça. Jacques Maritain d'ailleurs en était tout étonné. L'oraison est, dit-il, en quelque sorte le soleil et le centre de toutes les préoccupations de la journée d'un carme. On a l'impression chaque soir qu'on n'a guère fait que cela d'important. C'est l'oraison. Alors le jeune père Marie-Eugène s'imprègne particulièrement de la doctrine de Sainte Thérèse d'Avila, qui est la mère du Carmel. Il le sait, c'est l'oraison qui forme à la foi contemplative. C'est l'oraison qui livre à l'action de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint prépare lui-même son apôtre, le père Marie-Eugène. Les années 1923-25 sont marquées par la béatification, puis la canonisation de Thérèse de Lisieux. Alors c'est une joie spirituelle, une allégresse pour lui. La mission de la petite bienheureuse, écrit-il, est une effusion de l'amour divin dans les âmes, sous la forme que le bon Dieu désire pour notre époque, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'elle a fait un bien immense dans tout le XXe siècle, et elle continue, cette petite bourgeoise un peu innocente de Lisieux, et qui était illuminée par la grâce, et qui était une petite carmélite qui est morte à 24 ans. Il faut lire et s'intéresser. Je vais déjà donner une série de 10 heures de conférences sur elle. Et c'est tellement passionnant, la vie de Thérèse de Lisieux. En tout cas, c'est une mission qu'elle a eue, qui était absolument phénoménale. Le père Marie-Eugène était préoccupé par la diffusion de la doctrine des saints du Carmel. Il était convaincu qu'elle était avant tout un esprit. On pouvait donc la mettre à la portée de tous. Et c'est ça son grand, l'œuvre extraordinaire qu'il a faite au XXe siècle. Il a pensé que la doctrine des grands saints du Carmel, Jean de la Croix, Thérèse Avila, Thérèse de Lisieux, etc., pouvait être vécue en plein monde, dans une forme adaptée aux besoins de notre temps. Puis il sentait, d'une façon confuse peut-être, qu'il avait, c'est là une expression familière, quelque chose à faire. Il disait souvent ça, j'ai quelque chose à faire. C'était une mission, il en était même ouvert à son provincial. Alors, ce qui lui fut demandé en premier lieu, mon père Marie-Eugène, c'était des cours de raison. C'est décidé qu'en mai 1931, ses idées mûrissaient. Là, la conjoncture des événements allait le pousser. On était en 1932. L'ordre des Carmes venait d'établir deux semi-provinces en France. Alors, il fallait diviser ça, puis il y en avait une dans le sud de la France qui était nommée supérieure. Mais il songeait de plus en plus à rassembler les gens, des auditrices en particulier, qui venaient de l'entendre. Et puis, il y en a une qui lui dit, « Tout ce que nous avons, nous vous le donnons. Dites-nous ce qu'il faut faire et nous le ferons. » Elles veulent devenir en somme des tertiaires, des membres d'un tiers-ordre carmélitain, si on veut. Et ça va être la fondation de l'Institut Notre-Dame de Vie qui existe ici au Québec, à Saint-Paul-d'Abbotsford, et évidemment à Montréal. C'est très exigeant, c'est pas n'importe qui peut rentrer là-dedans. Il faut savoir pratiquer l'oraison, croyez-le pas, dans le monde, 2 heures par jour. Je répète, 2 heures par jour. Il faut le faire. Hein? Alors, quel était l'idéal de cette fondation? Le but de la fondation était d'unir étroitement au milieu du monde vie contemplative et vie apostolique, en imprégnant d'oraison tout apostolat pour être le témoin du Dieu vivant par la parole et par la vie. Il s'agissait donc de faire l'expérience du désert, si on appelle ça, cette solitude, la prière intense. Je ne sais pas si vous avez vu hier au canal 15, la TV5, de 8h30 à 10h, des moines, des moniales, il y avait des trappistes visitant, dignes bénédictins, Moignal de Jérusalem, frère de Saint-Jean, etc. En costume, tu sais, dans un studio immense, avec une foule, dans une mission d'affaires publiques, et pas une mission religieuse, et puis tout ce monde parlant de la vie, de la solitude, justement du désert, de leur vocation dans des monastères, ils étaient sortis de leur monastère, chose extraordinaire. On avait même une entrevue avec le prieur de... Mon Dieu, d'une chartreuse dans l'Ain, où je suis déjà allé pour visiter, mais on ne peut pas visiter tellement c'est strict et sévère. Alors, le père Marie-Eugène voulait donner à notre époque des apôtres contemplatifs. Une famille spirituelle d'un genre nouveau naît donc de naître dans l'Église. Et dès lors, le père Marie-Eugène va diriger la fondation. Il va veiller à sa croissance. Je voudrais que vous alliez où nous ne pouvons aller sur les boulevards, en pleine mer, dans tous les milieux, disait-il. Il est sûr que Thérèse d'Enfant Jésus veille sur son groupe, comme elle a veillé sur lui et sur ses soldats pendant la guerre, je souvenais de ça. Et le père Marie-Eugène, bien, soutient l'œuvre de sa fondation en accomplissant d'abord les hautes fonctions que son ordre lui confiera. Ce ne sera pas une tâche facile, il va devenir supérieur. Il va être obligé de se rendre à Rome. C'est incroyable, c'était un immense carme. Lui, d'origine très modeste et merveilleux, et à travers toutes les difficultés, bien, toutes les obscurités, le père Marie-Eugène va toujours garder sa foi et son espérance. Il dit, « Une chose m'a toujours retenu, c'était celle-là. Je sentais le bon Dieu. Je sentais le bon Dieu. J'ai toujours senti l'Esprit Saint dans les âmes et dans l'Institut, la grâce de Dieu. » Et ceux qui venaient, religieux ou autres, qui examinaient la chose, le trouvaient aussi, je crois. Ils ne se cachaient pas pour le dire. À Notre-Dame de Vie, il y a quelque chose, il y a un esprit. C'est ce que ces gens, les gens disaient quand ils voyaient l'Institut Notre-Dame de Vie. Lui-même, il ajoutait, « Il n'y a qu'un esprit, c'est l'Esprit Saint. » Alors il est nommé prieur d'Agen dans le sud de la France. Il réside dans ce couvent de 1932 à 36 et grâce au noviciat qui y est ouvert, la province d'Avignon, Aquitaine, va se constituer. À la jeunesse de l'ordre, il apprend que la vocation Carmel, c'est surtout cela. Souvenez-vous de ça, et ça s'applique à nous tous. Ce savoir habité par Dieu et, dans la grâce du baptême, avoir le désir constant d'aller vers ce Dieu intérieur, ou pas en haut dans les nuages, mais quand je vois les gens qui lèvent les yeux et qui disent « l'homme en haut » ou « celui-là qui est en haut » ou « le bon Dieu en montrant les nuages », voyons donc. Je répète, ce savoir habité par Dieu et dans la grâce du baptême, avoir le désir constant d'aller vers ce Dieu intérieur découvert chaque jour davantage dans l'oraison et la vie d'oraison. Alors il enseigne tout autant par sa propre vie. Alors il s'occupe vraiment de sa charge. Il a une certitude confiante qui repose sur Dieu, mais qui repose également sur la générosité ardente de son groupe, pour lequel l'éloignement à Rome est un appel plus pressant à la disponibilité et à l'espérance. Alors, en avril 1937, le père Marie-Eugène se rend à Rome, où il résidera jusqu'en 1955. Il est élu troisième définiteur général, ce sont les expressions, puis premier définiteur général en 1947. Là, il va devenir vicaire général en 1954 à la suite du décès du père Silverio de Sainte-Thérèse. Alors, l'exercice de sa charge lui donne accès auprès des organismes de Rome. Il écoute, puis sera lui-même écouté et respecté. Alors, son séjour à la maison généralice à Rome se trouve abrégé par la guerre de 39. Encore la guerre qui l'arrache. Ça le rappelle en France, il devient capitaine adjudant-major. Lui, un moine, un mystique, un prêtre, imaginez, il commande un bataillon dans les Alpes. Puis il est finalement démobilisé assez rapidement à la fin de 1940. Et puis, comme il ne peut pas se rendre à Rome, bien, il fixe sa résidence dans le sud de la France. Et jusqu'à la fin de la guerre, là, en 1945, il vit dans une atmosphère d'angoisse, de difficulté qui caractérise cette époque. Il va consacrer son activité à cette région-là. Là, puis, il y a un groupe de jeunes filles qui vient à Notre-Dame-de-Vie, rejoindre celles qui forment le premier noyau de l'Institut. Alors, avec leur jeunesse, elles apportent leur dynamisme et ça ajoute beaucoup de choses. Les heures d'oraison de jour et de nuit, chrétien, ce n'est pas seulement un exercice de votre vie, c'est pour être fidèle au principe même de votre vocation qui est une expérience de Dieu. Votre vocation qui est une expérience de Dieu, un appel à la recherche de Dieu, un besoin, une soif de Dieu. En somme, c'est ça la vie. Est-ce qu'il y a autre chose dans la vie? Tout dépend de ça. Ben oui, même la soupe qu'on prépare, hein, me semble qu'elle est meilleure, hein, quand on a une expérience de Dieu. On rend grâce pour tout. Alors il fallait trouver le cadre quotidien pour assurer un équilibre à tout ça, soutenir, orienter, éduquer cet élève d'une bonté paternelle qu'il avait au cœur, puis d'une patience inlassable. C'est donc auprès des membres de l'Institut que le père Marie-Eugène reprend l'enseignement des maîtres du Carmel, l'analyse, il le simplifie et il le modernise. Hein, puis durant des jours qu'il consacrait aux prêtres, parce qu'il y avait des prêtres aussi qui s'approchaient de lui pour ça, mais il les replongeait à la vraie source de leur apostolat sacerdotal. Cette œuvre lui paraîtra de plus en plus urgente au cours des années, et c'est à elle qu'il voudra donner ses dernières forces. Pour lui, le sacerdoce, c'est le Christ. Ce Christ que le prêtre doit regarder d'un regard contemplatif. Et l'image par excellence qu'il aimait exalter était celle du bon pasteur, modèle de tous les prêtres. C'est lui notre force, disait-il au prêtre. Et depuis le jour où il nous a consacrés prêtres, il aspire à nous transformer en lui dans la totalité de notre être. Quel triomphe pour lui le jour où son règne sacerdotal serait complètement étendu à nous, où toutes nos actions, toutes nos facultés lui seraient complètement soumises, et où nous pourrions dire, si les prêtres disaient tout ça, qu'ils seraient heureux, moi, avec lui, je suis le bon pasteur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est lui, et nous nous identifions à lui. Alors en janvier 46, Père Marie-Eugène reprend son poste de définiteur général à Rome. Alors il retourne à Rome, donc c'est la période la plus importante de ses activités. Alors je vous fais grâce des activités, c'est épouvantable, il n'arrête pas, il y a des congrès thérésiens, il prend la parole, et il résume sa pensée sur Thérèse l'enfant Jésus. Dieu a placé Thérèse l'enfant Jésus pour révéler, faire aimer l'amour, pour lever une légion innombrable de petites âmes ayant expérimenté l'amour et capable d'emmener ici-bas les rudes combats. Alors, tout en lui devient activité prédication. Les nombreuses conférences que le père Marie-Eugène avait faites lui avaient permis de constater, dit-il, que la soif de Dieu n'est point l'apanage de la culture, que Dieu l'allume heureusement en bien des âmes et qu'il suffit de l'avoir reçu pour saisir le langage des maîtres qui nous ont tracé les sentiers escarpés conduisant à la source d'eau vive. Bien oui, dans les paroisses, les plus petites gens ont cette soif de Dieu. Alors c'est ainsi qu'est né ce livre « Je veux voir Dieu », c'est son œuvre écrite. L'ouvrage était paru en deux volumes d'abord, « Je veux voir Dieu » en 49, « Je suis fille de l'Église » en 51, « Je suis fille de l'Église », c'est un immense et gros bouquin là. Mais c'était pas réduit comme texte, mais c'est sur un papier bible, comme une bible. Et c'est un livre magnifique qu'on peut acheter au Carmel ici, là, sur l'avenue du Carmel, près de Saint-Denis, au nord du métro Laurier, là. Alors, ou bien chez les Carmes, évidemment. Alors cet ouvrage, qui est une synthèse puissante de l'enseignement de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de Thérèse l'Enfant Jésus, était d'abord et demeure, comme il dit, le pain cuit sous la cendre, pour les fils et les filles de Notre-Dame de Vie. Il vient du cœur de leur père. Ça vient aussi de sa haute expérience spirituelle, et chaque chapitre, qui est le fruit de combien de travaux et de fatigues, mais le père Marie-Eugène relisait toutes les œuvres des... Alors, ou bien chez les Carmes, évidemment. Alors cet ouvrage, qui est une synthèse puissante de l'enseignement de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de Thérèse l'Enfant Jésus, était d'abord et demeure, comme il dit, le pain cuit sous la cendre, pour les fils et les filles de Notre-Dame de Vie. Il vient du cœur de leur père. Ça vient aussi de sa haute expérience spirituelle, et chaque chapitre, qui est le fruit de combien de travaux et de fatigues, mais le père Marie-Eugène relisait toutes les œuvres des saints de son ordre du Carmel, pour chacun des chapitres, d'un court traité qui a été vécu par lui, combien de fois commenté à la lumière de sa propre science spirituelle. Alors ces conférences, le donner à Notre-Dame de Vie, sous la forme du langage familier, parce que c'est un homme souriant et sympathique, ça créait en ceux qui l'écoutaient une impression d'une plénitude surnaturelle, dit-on, inexprimable. Il paraît que c'était merveilleux. Il y a des cassettes de ça, paraît-il. On s'asseyait autour d'une table et de sa large main d'ouvrier, de fils de mineur, puis de bâtisseur, il parlait du don de soi, de la disposition essentielle à l'emprise de l'Esprit-Saint. Quand on se donne à l'Esprit-Saint et qu'on lui dit « prends-moi »,
Ça change toute la vie, je vous l'ai souvent dit. Il avait l'art, lui, de faire saisir les choses les plus difficiles à travers des images savoureuses. Il disait s'arrêter, se regarder, ce serait un péché contre l'esprit. L'esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour regarder courir l'esprit. L'esprit, ce n'est pas le Tour de France que l'on va voir au sommet d'une montagne pour savoir s'il marche bien. Il faut se laisser emporter par l'esprit. Ou bien, des fois, il dressait sa haute silhouette face au village, une main dans la ceinture de cuir, ils ont encore des ceintures de cuir, les carmes, puis l'autre levé, puis l'index dressé, il disait, « La foi est une antenne, elle atteint Dieu qui réagit, mais on ne sent rien. La foi est obscure. Nous avons une vocation de hibou. » C'est vrai, hein? Ah, le silence de Dieu, c'est pas facile. Alors finalement, bien, il dirige l'ordre, il voyage beaucoup. Oh, il se rend au Caire, en Mésopotamie, aux Philippines, au Vietnam, aux Indes, en Palestine. Il est d'ailleurs venu au Québec de nombreuses fois, car nous avions des carmes, ici à Nicolette autrefois. Alors, à la fin de novembre 54, tout l'intérêt, s'il veut saisir l'âme des pays qu'il visite, de comprendre l'homme de ces pays, il faut leur donner le christianisme intégral, dit-il en parlant du Japon. Alors, il luttait pour qu'on ne défigure pas en les représentant les visages des saints. Il voulait que la sublime doctrine des saints soit transmise intégralement. Il dit, pour les adapter à notre taille, ne les amputons pas. Ne cherchons pas à excuser leur taille sublime. Grandis encore par leur élan audacieux vers l'infini, ni leur dépassement de toute chose pour vivre sous une autre lumière. Ne transformons pas ces hommes et ces femmes en pieux humanistes. Masquer ainsi leur visage et leur enseignement au regard de nos contemporains serait un mensonge et une fausse charité. Alors il s'est battu pour cela, mais en même temps, il n'en donnait pas moins les règles sûres de l'adaptation. Alors, il va à Hong Kong, à Macao, etc. C'est incroyable. Il dit aux membres de l'Institut Notre-Dame de Vie, à un moment donné, partout où on demande l'aide de Notre-Dame de Vie, voilà des champs d'apostolat qui s'ouvrent devant vous et exigent votre disponibilité complète. Quelques jours avant le chapitre général qui s'ouvre à Rome le 27 avril 1955, il mettra fin aux fonctions du Père Marie-Eugène, mais le cardinal Piazza, qui est un carme lui aussi, qui l'avait soutenu en une circonstance particulièrement délicate, là, vient bénir les bâtiments achevés du Collège international dans la construction duquel le Père Marie-Eugène avait eu une part décisive et très importante. C'est un collège international comme nous avons le Collège canadien à Rome pour les étudiants en théologie qui vont à Rome pour perfectionner leurs connaissances. Eh bien, les carmes ont un collège international. Ils ont aussi l'université Thérésianum. Il y a des Québécois qui sont allés étudier la haute mystique là-bas, j'en connais. Des jeunes, oui, 28, 30 ans, peu connus malheureusement. Alors, Père Marie-Eugène voulait surtout que la formation donne à la jeunesse de l'ordre la conviction du caractère irremplaçable, de l'oraison, oui, de l'oraison, dans la vie de ceux qui sont au du Carmel. Et tous gardent mémoire de sa haute silhouette, recueillie, paisible, devant le Saint-Sacrement. Alors, pour assurer le chemin de l'humilité qui est la base essentielle de la vie spirituelle, de l'idéal d'union, de la contemplation et de l'action, le Père Marie-Eugène va obtenir de la Sacrée Congrégation que les membres de l'Institut Notre-Dame de Vie, lors de leur engagement définitif par les conseils évangéliques, fassent une promesse d'humilité. Étonnant, hein? En plein 20e siècle. Alors, ça s'est fait la première fois à Noël 58. Les circonstances douloureuses avaient confirmé le Père Marie-Eugène dans ce sens. C'est sa sœur, sa chère sœur Berthe Grialou, à laquelle il avait confié sa mère à son entrée au Carmel, et qui était ensuite, à la mort de sa mère, devenue membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Elle est morte seule un soir dans son petit appartement d'une crise cardiaque que personne n'avait soupçonnée. C'était le 2 janvier 58. Alors à partir de cette date, le père Marie-Eugène marche vers son terme, c'est celui de la sainteté, hein, celui d'où jaillira une vie plus abondante. Il écrit « Quand l'Esprit a commencé une œuvre, il l'amène à son achèvement. Dieu nous associe à son œuvre, il nous prend comme collaborateurs. Alors Dieu se sert d'un événement providentiel pour placer le fondateur au cœur de son œuvre. Au chapitre provincial de 1960, il est démis de sa charge. Alors il dit alors, il dit en riant, « Je peux me reposer à présent, maintenant je vais essayer de devenir un saint. » Alors tout son être est atteint par une grande fatigue. Et il en est content. Car cet appauvrissement physique, hein, cette espèce d'impuissance, il les ressent avec plaisir. Il dit, on a besoin de ce sentiment de faiblesse, de pauvreté, d'impuissance physique, qui joue aussi sur le plan moral. Quand on n'a plus rien, on fait ce qu'on peut. Si vous saviez comme c'est bon, je retrouve la miséricorde avec cette impuissance. Alors, la miséricorde n'est pas un attribut divin fabriqué. Cette situation physique, morale, nous ramène à l'attribut essentiel de Dieu. Il dit, je crois que je vais travailler plus que jamais dans sa fatigue. Alors le père Marie-Eugène désirait aussi beaucoup la création de centres de spiritualité pour diffuser la doctrine. Il en avait parlé dans son discours d'ouverture du chapitre général des Carmes en 55. Alors il va favoriser l'installation de centres de spiritualité, en particulier celui de Nicolette dans le Québec. Il envoie des pères Carmes à la demande du cardinal Léger, de Mgr Lemieux de Québec. Et Mgr Lemieux avait un frère, le père Édouard Lemieux, qui était bénédictin, que j'ai bien connu et bien aimé. Alors il a participé aux sessions comme professeur ici à Nicolette. Il a donné des cours de spiritualité chaque année à partir de 1960, excepté en 62, où son état de santé ne lui a pas permis. Et c'est au cours d'un de ses voyages que Marie Pila, qu'on considère comme la cofondatrice de l'Institut, prend contact avec le Québec dès 1961. Elle a créé des liens d'amitié avec le Carmel de Montréal, en préparant ainsi l'implantation de l'Institut Notre-Dame de Vie au Québec à Saint-Paul-d'Abbotsford. En fait, l'équilibre de cette formation, qui utilise toutes les richesses humaines des membres et reste axée très fortement sur Dieu, mais porte les membres à réaliser leur maturité. Ça les rend plus ouverts aux besoins actuels de l'Église, aux grands problèmes du monde, comme aux besoins particuliers de chaque pays. Il ne s'agit pas d'aller rêver. Il s'agit de devenir de meilleurs chrétiens actifs et vivants. À ce moment-là, le père Marie-Eugène a devant lui des laïcs, hommes, des femmes et des prêtres. Les jeunes gens aussi prennent la même orientation de formation. Ils commencent par venir passer un an dans ce centre de solitude. Un an, imaginez. Peu avant sa mort, le père Marie-Eugène leur a demandé d'adopter la durée de formation expérimentée par la branche féminine. Alors, il expliquait que la croissance spirituelle n'est pas quelque chose de stable. Elle subit des crises qui ne sont en fait que des paliers de rebondissement pour l'âme. J'aime bien ça. Vous avez des crises spirituelles dans votre évolution. Vous avez plus le goût de ci, plus le goût de ça. C'est des tremplins, ça. C'est une occasion toute trouvée pour se jeter dans les bras de Dieu. Toute trouvée pour se jeter dans les bras de Dieu. Le père Marie-Eugène avait le respect profond de la personne et de la vocation. Il aimait particulièrement la jeunesse qu'il sentait plus fragile déjà dans ses dernières années. Parce que la crise de civilisation, elle commençait, il la voyait venir, hein? Cette crise de civilisation qui permet aux réalisateurs de Radio-Canada de faire des émissions comme on en voit là à 6h30 sur les gangs de Montréal. Mon Dieu, quelle crise! Nos jeunes qui commencent à s'entretuer comme on fait aux États-Unis. Quelle tristesse! 12 ans, 14 ans, 16 ans. C'est pas la seule crise de la civilisation, elle atteint les adultes, elle atteint les vieillards. On parle de vieilles personnes qui se suicident, n'ont pas la foi, ne voient plus pourquoi ils vivent. Alors au début de l'année 62, en février, il a fait un accident circulatoire et au cours d'une conférence à Marseille, le père Marie-Eugène Carme est obligé de s'interrompre. L'angoisse fait sentir autour de lui. Alors on le réconforte. Il réconforte aussi les autres. Il dit, vous êtes triste. Moi, je suis dans la joie. Il faudra prier pour que je sois patient. Prier pour que ce pauvre pécheur, prier pour mon âme, le bon Dieu sera bien content. Si c'est nécessaire, le bon Dieu me maintiendra. Et il dit quelque chose de sublime. Vous savez, il faut avoir beaucoup d'humilité, me semble, pour dire des choses comme ça. C'est bien embêtant. Il dit, moi-même, je ne suis que la pauvre victime de la lumière, du dessein auquel j'essayais de me dérober. Immolé complètement à l'Institut, je n'ai rien fait. Je ne suis que la victime d'une lumière, d'un dessein de Dieu. Quand je dis que je n'ai rien fait, j'exprime une vérité. C'est la garantie de l'œuvre divine. Mais on peut se dire, mon Dieu, il joue la comédie, il dit des belles paroles. Non. Non, non, non. Il faut lire tout ce qu'il a écrit. Il faut voir ses photos. Il faut entendre le témoignage des gens qui l'ont connu. Il écrit, le grand acte de notre vie, le dernier, doit être le couronnement de notre existence, la réalisation de notre sacrifice, de notre offrande. Offrons-nous au décret de Dieu. Offrons notre mort. Ne nous contentons pas de l'accepter. Offrons-nous pour elle. Nous aussi, nous pouvons remplir une mission. Mourir pour une grande cause, pour l'Église, en restant faibles et pécheurs. On sait d'ailleurs, nous croyant, que la mort n'existe pas. C'est une grande naissance, avec un grand N majuscule, un grand G majuscule. Les contacts avec l'Orient, avec l'Est de l'Europe aussi, il veut rappeler le mal du monde, dont le poids est demeuré présent au fond de son âme. Il écrit en considérant le monde sans pessimisme, dans la vérité. Je vois que les puissances des ténèbres y dominent, qu'elles y sont triomphantes, qu'elles menacent de tout submerger. Je ne vois pas comment je pourrais les atteindre et les vaincre. Il ne me reste qu'à faire comme vous, ô Jésus, à me laisser accabler par ces puissances. Il ne me reste qu'à entrer dans l'obscurité de Gethsémani pour y chercher moi aussi le moyen de triompher. Parce que le moyen de triompher, c'est de mourir à nous-mêmes. Aux vacances de février 65, il y a un nouvel accroc de santé qui met sa vie en danger. Le 21 février 65, donc il se croyait perdu. Alors le père Marie-Eugène rassemble toutes ses forces, il laisse déborder les sentiments de son âme dans une parole qui restera son testament spirituel adressé à toute la famille de Notre-Dame de Vie. En voici un bref extrait. Voici le testament que je vous laisse. La grâce que l'Esprit-Saint descende sur vous. Que vous puissiez tous dire le plus tôt possible que l'Esprit-Saint est votre ami. Que l'Esprit-Saint est votre lumière, que l'Esprit-Saint est votre maître. C'est le vœu que je forme pour vous. C'est la prière que je vais continuer sur la terre, tant que le bon Dieu me laissera ici, et que je continuerai certainement pour vous pendant l'éternité. La dernière de cette année de sa vie, l'année 66, fut extrêmement remplie, hein? Ce fut l'illustration magnifique de ce qu'il avait non seulement prêché mais vécu, la valeur du don de soi. Que fera cette âme, nous dit-il dans « Je veux voir Dieu ». Il écrit ce que l'esprit d'amour lui impose. C'est ça qu'on doit faire, hein? Prière, immolation et activité. Immolation, c'est pas... Les gens prennent ça mal, l'immolation. L'immolation, c'est comme un grand envol, c'est se donner des ailes. C'est comme un oiseau qui surgit, vous savez, quand ils sont sur l'eau, puis tout à coup, là, ils courent sur l'eau, là, puis ils volent. Que c'est beau à voir, hein? C'est ça, l'immolation. L'activité. Le nombre de voyages qu'il a fait dans les couvents et monastères est impressionnant durant cette année. Mais pas un mois, une plusieurs fois. Il va en France, au Canada, à Bruxelles, il n'arrête pas. Un jour, on lui demande, ça ne vous fatigue pas trop, toutes ces allées et venues? Oh, s'il fallait que je fasse attention à ce qui me fatigue. Mais je vois bien que je peux en faire de moins en moins. Alors, jusqu'au 24 novembre, il sera toujours présent à l'oraison de nuit quand même. En janvier 67, il dira après une nuit d'agitation, « Quand je dors profondément, je ne pense plus. Quand je me réveille, il n'y a plus que l'Esprit Saint. Il prend tout. Je suis avec notre Seigneur. Il y a comme identification avec lui. Mon âme est pleine de notre Seigneur. Je désire communier, mais ce n'est pas un appel du vide, c'est un appel de plénitude. S'il n'y avait plus de tabernacle, je sens que notre Seigneur serait aussi complètement en moi. » Le dimanche des Rameaux, 67, il veut s'asseoir dans son fauteuil, sa faiblesse est grande, souffrance physique, mais aussi souffrance morale pour des affaires qu'il préoccupe, alors il pleure. Tout se réalisera, tout et plus, pourvu que l'on espère, dit-il. Le jeudi saint, son cœur de prêtre est tout entier dans les profondeurs du sacerdoce du Christ, il dit, c'est la journée du sacerdoce. Alors, quelque temps avant, lorsqu'il avait pu redire sa messe assis, il avait laissé déborder sa joie. Il avait dit, « Ce matin, j'ai dit ma messe. J'ai failli en pleurer de joie. Je suis fait pour cela, pour célébrer le sacrifice. » Après le sacrement des malades, le vendredi saint, il dit, « Mon Dieu, je vous aime. Jésus, je vous aime. Il me semble que je vous aime parfaitement. Et que je vous ressemble. Toutes les minutes qui passent permettent de vous aimer davantage. Il m'a tout donné, le bon Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est l'amour. » Puis tout de suite, par le même mouvement de balancier, « Après ma mort, vous vous mettrez tout de suite à la catéchèse pour faire apprendre à aimer le bon Dieu. Oh mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je vous aime. » La perfection, il n'y en a qu'une, c'est celle du Père et du Fils qui s'aiment. C'est l'amour substantiel. La nôtre, bien que finie, est la même. Ne l'oubliez pas, dites-le bien. Et le lundi de Pâques, le 27 mars 1967, 10e anniversaire de la fête qu'il a instituée en l'honneur de Notre-Dame de Vie, pour partager avec elle la joie de la résurrection, le Père Marie Eugène de l'Enfant Jésus, Carme, meurt après avoir murmuré la veille, « Pour moi, je m'en vais vers l'étreinte de l'Esprit-Saint. » Si vous allez à la messe aujourd'hui, juste avant l'Évangile, nous disons dans toute l'Église catholique, dans toute la surface de la terre, dans l'Église latine. « Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tu nous as appelés à la liberté pour que nous soyons vraiment libres. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. »